Salut et bienvenue dans Pastèque, je suis Tanguy Pastureau, avec moi il est bien sûr Alex Vizorek.
Bonjour Tanguy.
Bonjour, deux futurs boomers qui plutôt que de viser les pads ont décidé de devenir les rois du web en rencontrant les stars de la toile. Alors Pastèque chaque semaine c'est un live sur Twitch, une émission de radio, Lulu est présente pour relayer vos messages, vos questions, vos propositions de rôle si vous êtes producteur de cinéma. Bonjour Lulu.
Mais bonjour à tous les deux.
Mais bonjour.
Alors au programme aujourd'hui il y aura notre revue de presse, on a épluché les journaux, nous allons également recevoir Gabriel et Corentin, deux jeunes hommes qui font de l'urbex, de l'exploration urbaine, ils entrent dans des lieux abandonnés comme un vieux château, le siège du PC ou le siège du PS. Et bon, bah, ils filment tout ça sur leur chaîne YouTube qui rencontre un beau succès. Mais tout de suite...
Eh ben, c'est le top de l'actu.
Tanguy Pastureau et Alex Vizorek sur France Inter, c'est Pastèque.
Tanguy Pastureau, quel est votre premier article de la semaine ?
Eh bien, je vais vous parler du maire de Kiev en Ukraine qui promet de défendre sa ville en cas d'attaque des Russes, puisque vous le savez, Alex, il y a de la tension à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Alors, pour les vacances de février, par exemple, je vous conseille par contre d'aller ailleurs. Hein, même un petit séjour à Center Park, végéter dans le jacuzzi avec des gens que vous ne connaissez pas et qui ont sans doute une hygiène intime douteuse, est mieux que de se rendre à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Alors, en fait, on craint une attaque des Russes qui ont leur raison, hein, notamment leur envie d'avoir un pays plus grand, parce que devant la planisphère ensuite, vous pouvez bien vous moquer des Hollandais. Et le maire de Kiev, la capitale de l'Ukraine, un certain Vitali Klitschko.
Ah ben je le connais, c'est le boxeur.
Voilà.
Oh,
s'est engagé. Il s'est engagé à défendre sa ville, y compris, a-t-il dit, physiquement. Donc là, on se dit oui. Alors, si Béziers était attaqué par des gens tout nus venus d'Agde, juste à côté, le maire Robert Ménard, lui aussi défendrait sa ville en leur lançant du bromure. Sauf que Ménard fait 44 kilos tout mouillé, alors que Klitschko, vous l'avez
on
dit,
est plus sur le 190.
Est un ex-boxeur professionnel. On le voit parce qu'il a dû se casser le nez 20 fois.
Hein. Il a bien 2 mètres. C'est le grand parce qu'il il avait un frère qui s'appelait Vladimir.
Et ben voilà, j'y viens. Voilà, parce que le maire de Kiev, Vitali, a donc visité avec son frère
Vladimir,
qui est lui aussi champion de boxe.
Ah oui.
Parce qu'en fait, ils font tout ça dans la famille. Il y en a une qui fait du tennis, personne ne lui parle. ils ont visité une école de boxe qui est devenue un centre de recrutement et ils enrôlent à tour de bras des boxeurs pour défendre la nation. C'est-à-dire que tous, ils vont arriver comme ça avec leurs petits poings, mais le souci, c'est qu'avoir le physique de Pascal Brutal, c'est bien sympa. Mais face à une armée qui déboule avec des tanks, je suis pas certain que la stratégie soit la plus judicieuse.
Eh bien, écoutez, moi, je vais essayer de rendre un petit hommage. Je sais que Laurent Delmas le ferait tellement mieux que moi.
Mais non.
Mais Libération titre, La Viti éternelle. C'est quand même bien qu'un journal ait mis Monica Vitti en grand. Le lendemain de son décès à 90 ans, l'actrice culte du cinéma italien. Et petite anecdote qui me fait rire et qui me rappelle que retournons dans les salles de cinéma et surtout revivons la culture à fond. Ça raconte comment avait été reçue la projection de L'Aventura d'Antonioni au Festival de Cannes. Alors Antonioni qui a quand même 15-20 ans de plus que Monica Vitti, la croise dans un studio de doublage à Rome et lui dit « Vous avez une belle nuque, madame, vous devriez faire du cinéma. » Et fil en aiguille, il se passe ce qui se passe. Et puis, ils vivent ensemble, ils se mettent ensemble. Et lors de vacances en Sicile, ils se disputent les deux. Et à un moment, sur l'île à peu près déserte, elle claque la porte, elle se casse. Mais c'est une époque où il n'y avait pas de téléphone portable. Et tout le monde très inquiet, Monica Vitti qui est partie seule comme ça, au milieu de la nature. Et... le seul qui savait qu'elle allait revenir, c'était Antonioni lui-même. Et il dit, quand elle revient, c'est une histoire magnifique, il faut en faire un film. L'Aventura, que j'ai vu, et on va me lancer des pierres, mais c'est chiantissime. J'aurais pu être dans la salle à la projection, et j'aurais peut-être pas crié comme certains. À Cannes, il y a des mecs qui crient, il y en a marre, fais chier, c'est long, c'est chiant. Ouais, ouais. Et alors, à l'inverse, il y a des gens qui commencent à aimer le film, parce que à l'époque, Antonioni n'était pas la légende, donc on n'a plus fait ça après. Et des gens qui disent, non, mais ta gueule, on voudrait regarder le film. Et alors, ils se mettent sur la gueule. Et Alain Cuny, grand acteur, qui lui était là pour un autre film, il était dans la salle, commence à se battre avec les gens dans la salle de cinéma au Festival de Cannes. On ne fait plus ça aujourd'hui, on ne vit plus ce cinéma. Oui. Et alors, le soir, il était tendu encore à l'incuni, après, c'est pas possible que les gens aient détesté ce film qui est un chef-d'œuvre. Il y a un dîner, et il y a Dario Moreno qui vient chanter les chansons. L'autre, il est encore énervé, il dit, putain, c'est pas possible qu'on soit tous là à applaudir ce Gugus qui chante des trucs. Et il a voulu coller des pains à Dario Moreno. Il l'a pas fait.
Vous êtes envolé lyriquement, un peu comme Francis Huster.
Quand les assiettes se touchent, l'eau circule moins bien. 2 points. Les dingues du lave-vaisselle. C'est un article qui a pas mal tourné sur Twitter et qui vient du Monde, magazine du Monde.
Oui.
Et C'est Guillaumette Fort, je dois quand même la citer, parce qu'elle a eu cette idée géniale d'aller interroger des gens, de faire du journalisme d'investigation chez les fous du lave-vaisselle, ceux qui passent des heures à organiser le lave-vaisselle pour qu'on y mette le plus de choses, et avec des théories au fond, que personne ne maîtrise vraiment. Voilà. Et c'est ça qui est assez sympa.
Les gens qu'on appelle communément les psychopathes.
Voilà. Et je me suis dit, tant qu'il passe sûr, que vous-même deviez avoir des théories sur la position des couteaux dans le lave-vaisselle.
Mais ça dépend, en fait, parce qu'il y a deux types de lave-vaisselle. Voilà. Il y a le lave-vaisselle.
Je sentais que vous.
Non, il y a le lave-vaisselle où on a une espèce de petite plaque en plastique qu'on tire et puis les couverts doivent être mis dans des encoches.
Oui,
ça, c'est très pénible parce que du coup, il faut les mettre un par un. Et il y a les lave-vaisselle avec les paniers où là, on jette ces couverts comme ça un peu au hasard. Par contre, il faut toujours mettre le couteau, la lame.
Ça, c'est le débat.
Voilà.
C'est le débat.
Vers le fond, pour éviter que son enfant, par exemple, se blesse sur cette information.
Tout à l'heure, en fin de dîner, on est samedi soir, quand vous mettrez les couteaux dans le lave-vaisselle, vous penserez à cette émission de service public qui est Pastèque. Alors, Tanguy, qu'est-ce que vous avez encore à nous proposer, vous?
Rien de plus fort, puisque je vais vous parler.
C'est vrai que j'ai mis la barre rouge, je vous le cache pas.
Voilà, c'est ça le problème de vous faire intervenir, c'est que vous avez des sujets brillants. Moi, je vais vous parler de l'anniversaire de Christiane Taubira.
Oh, bon anniversaire, Tata.
Et oui, cette semaine, le 2, Christiane Taubira, la candidate aux élections présidentielles du 11e arrondissement, a fêté son anniversaire. Et en fait, surprise, elle vient quand même d'avoir 70 ans. Voilà.
Ouais, ces gens qui veulent participer à la retraite.
Voilà. Moins de 70. Alors, j'espère que ses amis lui ont offert des cadeaux à Christiane Taubira, parce que si elle partait du principe que ces cadeaux, ce seraient des sondages, voilà, c'est foutu. Il n'y a pas eu d'effet Taubira pour l'instant. Sa candidature a déclenché moins d'enthousiasme qu'un éventuel retour de Larousseau sur scène. Là, elle plafonne à 4,5% dans les sondages, ce qui n'est pas top, d'autant qu'elle a quand même remporté la primaire populaire, face à des candidats aussi puissants que Charlotte Marchandise, Anna Aguep-Porterie et Pierre Larouturou.
C'est pas Agnès Aguep-Porterie?
Si, c'est peut-être Agnès. Parce que Agnès Aguep, je crois pas trop aussi.
Même Taubira a pas su le dire.
Eh ben voilà.
Allez, c'est mon dernier article.
Ah bah oui.
Et oui, et c'est pas n'importe quel article parce que c'est celui qui va nous apporter la transition avec nos invités. Je suis très excité à l'idée qu'il nous explique ce que c'est, parce que ça vous passionne, c'est l'urbex.
Oui, j'aime bien.
Urban Exploration.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont visiter des endroits où normalement
abandonnés,
où on ne peut créer par l'homme.
Oui.
Parce qu'une forêt n'est pas de l'urbex,
non,
bien évidemment.
Non, une grotte non plus, voilà. Sauf peut-être s'il y a des peintures rupestres.
Ah, oui.
Mais bon,
on va leur demander.
A priori,
tout ça.
Cette grotte est déjà découverte et il y a déjà des gens qui la visitent. Donc,
exactement. Et là, c'est à Saumur, c'est un coffre-fort abandonné sur le trottoir qui a attendu en vain ses cambrioleurs. Ah. En fait, c'est un magasin d'or et de pièces de collection qui a fermé définitivement ses portes et ils ont mis le coffre-fort sur le trottoir. Et personne n'est venu le visiter. Personne n'est resté. C'est quand même triste, il y a des gens parfois qui cassent des maisons pour aller attraper les coffres-forts et là on vous le met sur le trottoir et vous n'en voulez pas. Donc voilà, l'image était plutôt mignonne. Et puis elle raconte aussi des choses que l'homme a pu créer qui ne serviront plus. Et on se retrouve juste après avec Gabriel et Corentin, presque 500 000 membres à leur chaîne YouTube, qui regardent leurs explorations dans le milieu urbain. Ce sera après le disque.
Pastèque, Basturo, Visorek, sur France Inter.
On va donc comprendre l'urbex après avoir écouté Émilie Loiseau qui nous chante...
Celle qui vit vers le sud.
Vous le dites bien, c'est encore plus poétique quand vous le dites.
Si tu fais ce voyage vers le sud, où le vent colle le sable sur les frontières, celle qui vit là, celle qui m'a dit de traverser la mer. Parle de moi à celle qui vit là, celle qui a dit on ne la mariera pas. Si tu vas où le soleil est si chaud que la terre se rit, que craque ta peau, assure-toi qu'il y a de l'ombre à sa porte pour amener de l'eau, de lui prêter main forte. Regarde pour moi si ses tresses sont longues, si le long de sa robe elle tombe. Si belle,
de mon visage. Je prie souvent pour ça.
Vous êtes sur France Inter, vous écoutez Pastèque et c'est l'heure de recevoir nos invités. Moi, je vais découvrir ce que c'est l'urbex. Tanguy, présentez-les-nous.
Eh bien, nous sommes avec Gabriel et Corentin, deux jeunes hommes qui font de l'urbex exploration urbaine. Ils entrent dans des lieux abandonnés, comme un vieux château ou le siège du Parti Socialiste. Et ils filment tout ça pour leur chaîne YouTube qui rencontre d'ailleurs un beau succès. Alors d'abord, bonjour.
Bonjour.
Merci pour l'invitation.
Avec plaisir. On parle d'exploration urbaine, mais souvent, en fait, c'est un terme un peu générique parce que parfois, il s'agit de châteaux qui sont abandonnés dans la campagne, de parcs d'attractions dévastés, enfin voilà.
Ça peut être tout et n'importe quoi.
C'est genre, ça.
Tout ce qui a été créé par l'homme, ça existe d'un côté abandonné, parcs d'attractions, aquariums, cinéma. Et nous, ce qu'on essaie de voir, c'est d'explorer tous ces lieux plus ou moins atypiques, pas forcément de se concentrer que sur les châteaux ou un type de lieu. C'est vraiment, on veut voir tous les lieux atypiques qui existent.
Comment vous choisissez les lieux ou comment vous êtes au courant qu'il y a un lieu qui pourrait faire l'objet d'une belle vidéo d'urbex?
C'est beaucoup de recherche. En fait. Ouais. Déjà, on regarde un peu tout ce qui sort sur Internet, tous les articles. Toutes les vidéos. Aussi, après, nous, de notre côté, on cherche dans les villes qui nous intéressent s'il y a tel ou tel lieu intéressant. Et après, une fois qu'on a ciblé plus ou moins une zone avec pas mal de lieux intéressants, on se dit, est-ce qu'on va voyager là-bas? Et on y va et on voit ce qu'il y a sur place.
Oui, forcément aussi, on se fait des amis dans le monde de l'urbex avec qui on échange, mais il faut que ce soit des gens de confiance, c'est ouais. Ça.
Je voudrais qu'on écoute un extrait sonore, comme ça, les gens peut-être se rendront compte. En gros, c'est comme une émission comme Zone Interdite. Ouais. Mais fait par
exactement.
Vous, fait par des youtubeurs, avec cette fraîcheur, on a l'impression d'être embarqué avec
et le côté caméra à l'épaule.
Fermé fin 2014, le parc aquatique que nous explorons aujourd'hui avait pourtant ouvert en 2005, avant de connaître un tragique destin d'abandon. Pourtant équipé d'une dizaine de toboggans, le Canon Noir, la colline des toboggans et le lagon pour enfants, il s'agissait d'un parc aquatique de rêve qui s'est rapidement transformé en étang vert. Il semblerait que le parc ait été abandonné du jour au lendemain. Spa, sauna, restaurant, aire de jeu et même une salle de sport qui est restée sur place et possède encore de l'équipement en état de marche. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo.
Vous placez aussi les règles de l'urbex
ouais.
Pour dire aux gens, si vous la reconnaissez, ne dites pas où c'est parce que l'idée c'est pas que ça devienne un parc d'attractions. Et parmi les règles, il y a ne rien prendre sur place.
Évidemment, parce que c'est nous, si on s'en sort bien à chaque fois, à chaque vidéo, c'est parce qu'on respecte ces règles, on casse rien, on vole rien. Donc même si la police nous arrête, certes on est sur place, mais on fait que de la photo. À partir du moment où on commence à voler ou à casser, là il peut vraiment y avoir des problèmes juridiques pour les personnes qui font ça. Donc on prévient, après les personnes nous écoutent ou non, c'est pas nous qui choisissons, mais au moins c'est dit s'il y a un problème.
Quoi.
C'est un hobby ou c'est devenu de facto, parce qu'il y a 500 000 personnes susceptibles de vous voir, un métier?
On est entre les deux là.
Ouais, on a la chance que ce soit les deux en fait,
okay,
c'est trop cool quoi. Ce qui est cool c'est que du coup on n'a pas forcément besoin de dépenser de l'argent personnel pour voyager et que du coup l'argent qu'on arrive à gagner, on le réinvestit dans du matériel et dans les voyages, parce que nos dernières explorations, on les a fait assez loin. On a fait la Grèce, la Turquie. Les deux dernières, c'était quand même Turquie et États-Unis, donc c'est loin de là où on était. Quoi.
Et quand on va se balader en Turquie, où vous avez dû voir Midnight Express avant d'y aller?
Pas du tout.
Ce sont des jeunes.
C'est un film où se retrouve dans une prison turque et franchement.
On avait très peur de ça.
Voilà, fait de pas regarder.
Mais parce qu'il y a une affaire de stupéfiant quand même.
Alors, c'est une affaire de stupéfiant, mais ici vous êtes quand même dans un truc interdit. C'est-à-dire, si vous allez voir un truc, vous n'avez pas le droit d'aller en Turquie.
Surtout, c'est ce qu'on a fait là-bas, c'est sûrement le truc le plus risqué qu'on a jamais fait, parce que c'est. Un truc qui est très très récent, qui a moins de 2 ans, la seule personne qui peut rentrer, c'est la personne qui est au pouvoir. Et donc
Pour ne pas citer de nom.
Et on avait très très peur, ça s'est bien passé, c'est pas encore sorti, mais ouais, quand on est parti là-bas, on était vraiment pas bien.
C'est pas vous en Turquie qui avez fait la ville abandonnée, là, la ville qui ressemble un peu à Disneyland?
Exactement.
Ah ouais, d'accord.
Les châteaux Disney.
Ça, si on s'abonne maintenant, il va sortir bientôt.
D'ici mars.
Ouais. Ouais, je pense d'accord, et bah écoutez, on a un petit son de tout ça.
On a combien de maisons ici, Quentin?
Plus de 500.
Il y en avait 700 qui devaient être construites.
Un projet de plus de 730 maisons.
Ah, qui sont 20 millions de dollars.
Dans un style Disney-like. Et là, du coup, on est dans la partie assez reculée. Donc, vous voyez que, par exemple, il n'y a plus rien derrière nous. Même s'il y a des maisons qui sont là-haut. Et en fait, plus on va se rapprocher de là-bas, plus les maisons vont être terminées et accomplies. Il y a un énorme projet de centre commercial aussi qui était de fait devant, qu'on va aller voir. Et en fait, le problème, c'est que les maisons qui sont plus ou moins terminées, c'est là où il y a le plus de gardes. Donc, on va faire gaffe.
On entend que c'est qu'on n'est pas les bienvenus.
Il y a la pression.
C'est de jour, de nuit, c'est
en pleine journée.
Ouais, donc vous avez des images, elles sont magnifiques, j'imagine, parce que c'est aussi ça, c'est la beauté de. On a tendance à aller visiter le Taj Mahal, mais il y a aussi de la beauté de ce qui peut être abandonné, bien là sûr. Où la nature a repris ses droits quelque part.
Ouais, ça. Bon, après là, c'est un peu un truc différent parce que c'est un projet immobilier qui a même pas été terminé. En fait, il a été abandonné avant d'être terminé. Mais c'est sûr que même au-delà d'explorer des trucs, on adore quand c'est beau. Et là, enfin, un village perdu au milieu de la montagne comme ça, c'est magnifique.
Lulu, le chat a des questions peut-être ou des remarques.
Tout à fait. Il y a pas mal de questions. Alors, est-ce que pour vous, l'urbex, c'est une approche sociale?
J'aurais plus dit historique parce que ce qu'on essaye un peu, c'est il y a un côté, on essaye d'immortaliser ce qu'on voit sur le moment parce qu'on sait que dans un mois ou cinq ans, l'endroit sera plus là, il aura été détruit, etc. Donc c'est peut-être, même si c'est inconscient, on est peut-être à la recherche du patrimoine pour l'immortaliser, avoir cette petite capsule en vidéo et qu'on puisse se dire, bah, on a réussi à l'immortaliser sur le moment X. Et...
Quel est votre lieu de rêve? Le Graal pour
à explorer.
Vous.
Ouais.
À explorer.
On en a parlé en plus l'autre jour. On n'a pas le même.
On en parle tout le temps. Attends, moi je sais plus ce que c'était.
Moi c'est à Baïkonour. C'est ça. Le Grand JD avait déjà pu faire une vidéo là-bas. C'est vraiment un centre de lancement spatial dans lequel il y a deux fusées. Il y a, enfin, c'est tout abandonné au milieu d'une base militaire. Enfin, c'est le plus gros truc à voir, des fusées
oui,
abandonnées. Baïkonour,
c'est, mais c'est très connu, c'est abandonné, Baïkonour.
Ouais, ouais. Enfin, il y a des zones abandonnées.
C'est une grande base spatiale, mais dont une partie est abandonnée, où il y a eu un fiasco avec des navettes spatiales. Et ces navettes spatiales sont abandonnées aujourd'hui.
D'accord.
J'ai lu Tchernobyl pour vous aussi.
Ouais.
Ouais, mais Tchernobyl, on aimerait y aller, mais pas forcément pour faire une vidéo, parce que c'est déjà beaucoup, enfin, c'est assez complet, tout ce qui sort de là-bas. Il y a, je pense, sur Internet, il y a des dizaines de documentaires. Donc je pense que si on irait, on trouverait une autre approche que ce qui a été déjà fait, mais c'est pas ce qui nous tente le plus actuellement.
Vous avez un quiz?
Oui, absolument.
Je vous vois, quand il frétille comme ça, c'est qu'il a
un
quiz.
Non, mais c'est pour avancer dans les
mais avançons.
Urbex ou pas urbex, voilà, urbex, je vais vous citer des lieux et vous me dites si ce sont des spots d'urbex mythiques ou pas, à votre avis.
On
attention,
fait un
sur deux. Body, la ville fantôme de Californie.
Bah oui.
Ouais,
oui.
Urbex. C'est un vestige de la ruée vers l'or. Cette
c'est
ville
ça.
Est abandonnée depuis 1942, plus que le pubis de Benoît XVI. On peut y voir des maisons de bois délabrées, des carcasses de voitures. En fait, ça ressemble à la Moldavie, mais avec du soleil.
Génial.
Attention, le 2 place du colonel Fabien, le siège du Parti communiste français.
Je te laisse celle-là.
Tu connais, toi?
Eh bien, c'est là, Urbex. Il y a une photo. Il y a une photo de Fabien Roussel.
Voilà, le lieu est toujours habité
Fabien
par.
Aussi, ça va pas être
voilà, le lieu est habité par le dernier communiste, Fabien Roussel, une sorte de Cyril Lignac. En plus, franchouillard, son programme, on le rappelle, du vin, de la bidoche, des jeux à voir et à la fin de la soirée, un copain qui pète. Les vestiges abandonnés des Jeux Olympiques de Sarajevo.
C'est Urbex.
Bosnie-Herzégovine.
Yougoslavie, en tout cas.
Yougoslavie, oui, oui, en fait.
Excusez-moi, je me facilite.
Vous êtes toujours sur la géographie communiste. On connaît bien le mec de France.
C'est parce que je vais voter Fabien Roussel.
Ah, d'accord.
J'espère que ça revienne.
Oui, Urbex. Ces Jeux Olympiques ont lieu en 84. C'était les JO d'hiver. Et le site olympique est depuis totalement abandonné. Il y a des pistes de bobsleigh au milieu des fougères.
C'est ça, ouais.
Ce qui est sympa si vous êtes à Hanneton, parce que vous pouvez vous amuser, mais peu de gens sont des Hannetons. Attention, la pilosité d'André Manoukian.
C'est ton tour.
Je ne me prononcerai
alors,
pas.
Alors, pas Urbex. Hein, et on ou alors, si vous voulez l'explorer. Il faut bien penser à lui demander avant, parce qu'on rappelle l'importance du consentement.
Bien sûr.
Enfin, le parc d'attractions, et ça, c'était un truc quand j'étais gamin, je rêvais d'y aller.
Mirapolis.
Voilà, le parc d'attractions Mirapolis, près de Cergy-Pontoise.
Oui, mais
Urbex,
sauf que
il est squatté.
Et puis, il reste
Rien.
Bah, tout a été emmené en Allemagne, en fait.
Hein. Des dalles de béton. Ouais. C'était avant Disneyland Paris, bien sûr, un parc 100% français autour des contes et légendes français. Il reste quasiment rien.
Mais il a existé ou pas ?
Ah, il a existé.
D'accord.
Il a été inauguré par Jacques Chirac.
Mais d'ailleurs, toutes les attractions de ce parc-là, elles ont été déplacées dans un parc en Allemagne.
C'est ça.
Qu'on a exploré.
Que vous avez fait.
Ouais. Qui a été abandonné. Ouais.
Et qui a été abandonné encore.
Donc, c'était des attractions qui portent malheur. Voilà. Mais alors justement, moi, quand j'ai regardé les vidéos d'Urbex sur Mirapolis, alors je crois pas que c'est vous qui étiez à ce moment-là, mais il y a une espèce de petit pont de bois comme ça, et il s'accroche en fait à la rambarde en disant on va pas passer au milieu parce que le pont va s'effondrer. Et alors moi, en tant que non pratiquant d'Urbex, moi j'irais marcher au milieu du pont.
Il y a beaucoup de réflexes qu'on observe au fur et à mesure. Bien
et
sûr.
Donc vous faites attention en fait à tous les détails.
Chaque truc,
tout est fragile.
Chaque truc qui peut être dangereux, on le réfléchit trois fois dans notre tête avant pour.
Mais il y a quand même de la prise de risque quand même.
Ouais, mais c'est toujours très réfléchi.
Oui, c'est ce que vous dites. L'idée de vous mettre en danger, c'est pas celle-là, normalement.
Non.
Vous aimez bien l'idée que ça puisse
être. On sait où s'arrêter, en fait. Voilà.
Il y a une histoire qui est amusante. Vous avez même dû retirer la vidéo parce que parfois les propriétaires ne sont pas contents.
Bien sûr.
En l'occurrence, vous avez fait de l'urbex chez un dealer en prison.
Ah non, mais en gros, la maison avait été ravagée par un incendie, du coup, elle était complètement abandonnée.
D'accord.
Et en fait, nous, de base, on arrivait dans un petit village pour explorer un garage qui appartenait à cette personne aussi, d'ailleurs. On arrive devant, on voit que le garage est fermé, on peut pas rentrer. Et là, il y a deux jeunes qui nous reconnaissent dans la rue et qui nous disent « Ah, oh, putain, je regarde vos vidéos, trop cool. » Et là, après, ils nous disent « Mais si vous voulez, il y a une maison abandonnée juste là-bas. »
La maison du trafiquant.
Et nous, ça, vous le saviez pas à ce moment-là.
On savait pas encore. Et du coup, on arrive, on explore la maison et tout. Et après, on cherche des articles sur Internet et on voit qu'en fait, cette maison appartient à un trafiquant de drogue. On se dit, bon, bah, l'histoire est marrante, on sort une vidéo. Quelques jours après, on reçoit des menaces, donc c'était pas très marrant.
De lui-même.
De collègue à lui, parce qu'il est en prison. Et vraiment, des menaces, on nous envoie nos adresses, on nous dit, il y a des gens dans Paris qui vous cherchent, et s'ils vous croisent, ils vous auront croisé. On n'était pas là à rigoler, on a dit, bon,
moi qui suis dans le rap français à côté de mes activités, je comprends cette vie-là, mais pour vous, ça doit être assez étrange.
Oui, c'est pas pour ça que vous faites ça, vous faites pas ça pour emmerder des gens.
Du tout, bien sûr.
Non.
Mais il faut préciser que jamais vous ne brisez une porte, par exemple. Vous ne franchissez que des portes.
Justement, nous, on a notre GoPro qui filme tout, et si on brisait les portes, ça serait sur la GoPro, la police, elle arrive, et là, il y a un crime. Alors que ce qu'on fait, c'est entre les lignes de papier, en fait, c'est pas légal, c'est pas illégal. Mais c'est pour ça qu'on n'a jamais de problème, c'est parce que c'est vraiment, on lit entre les lignes.
Dans le chat, est-ce qu'un urbex doit toujours être exceptionnel ou insolite ?
Au final, un urbex, après l'avoir visité, il est toujours insolite parce qu'on retient toujours un petit détail, que ce soit une maison, un cinéma ou quoi, il y a toujours un détail qu'on va retenir qui est insolite au lieu et qui est unique à cette place-là.
D'accord. Est-ce que vous pensez faire une chaîne urbex sur Twitch ?
Les urbex en live, c'est super sympa.
Ouais.
Mais là, on se concentre vraiment sur faire des vidéos.
D'accord.
Parce que du coup, il y a une vraie narration de documentariste. Une fois que vous le mettez en scène, une fois que vous créez la vidéo, qui fait sur votre chaîne principale, Gabriel et Corentin, 30 à 40 minutes. Mm-hmm. Et vous avez aussi, pour les gens qui seraient plus pressés, une autre chaîne qui s'appelle Corentin et Gabriel.
Original.
C'est malin. Et là, on a des vidéos plus courtes. Voilà.
C'est ça.
Et là aussi, je suppose que ça demande un vrai travail de quoi sélectionner pour
faire. En fait, sur la chaîne principale, c'est plus les grosses vidéos où vraiment on était un peu ébahis par l'endroit où il y a une belle histoire à raconter. Ouais. Et sur la chaîne secondaire, c'est vraiment plus on est rentré, il n'y avait pas forcément grand chose, mais c'est sympa. On va le mettre sur la chaîne secondaire pour faire un peu plus de contenu parce qu'on ne va pas le garder juste sur une carte mémoire comme ça.
Un autre quiz, attendez.
Oui, les duos de légende, puisque Gabriel Corentin, vous avez choisi de travailler en binôme. Hein, vous connaissez de plusieurs années, vous êtes inséparables. Et vos prénoms aussi. Donc, on en a parlé, vous avez créé une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle du coup Corentin et Gabriel. Voilà. Donc, vous êtes un duo de légende.
J'apprécie.
Voilà.
On est bien sûr, France Inter.
Mon ego là.
Donc, voilà ce que je vous propose. Je vais vous donner la première moitié d'un binôme célèbre dans l'histoire. Vous allez devoir nous donner le nom de l'autre moitié. Attention, on commence facile. Nous sommes deux, tout le monde croit que nous sommes jumeaux mais nous sommes juste sosies, tout le monde croit que nous sommes sympas mais nous sommes juste flics et un peu débiles, on nous voit dans les aventures de Tintin.
Dupont et Dupont.
Oui. Bravo.
Très fort.
Dupont et Dupont. Attention, nous sommes un duo de youtubeurs dont ici on peine encore à comprendre la ligne éditoriale. Notre plus grand fait d'armes, c'est d'avoir fait 16 millions de vues avec une vidéo sur les gestes barrières.
Marie-Claire Zarlito.
Voilà, bravo.
Là, c'est les collègues.
Bravo, et enfin.
C'est les grands frères.
Enfin, nous sommes des humoristes de talent et des hommes de radio au charisme inégalé depuis l'invention de la bande FM. Nous avons conquis à la sueur. Nous avons conquis à la sueur de notre front le public de Twitch pour la chaîne de France Inter. Nous recevons chaque semaine le gratin de l'internet.
Bien essayé. J'ai entendu Guillaume Blé.
Voilà.
Et on est sur Pastèque.
pastèque.
Vous avez dit pour McFly et Carlito, c'est les grands frères. Est-ce que oui, vous quand vous étiez gamin, est-ce que vous êtes encore un peu, si je fais mon vieux con, mais vous avez...
Toujours, évidemment.
Ouais, on est sûr.
23-24. Vous consommiez déjà YouTube, c'est votre média.
Toujours. Ouais. Ouais. Toujours.
La télé, ça n'a jamais été votre...
Ah, si, quand même.
Si, avant, un peu quand même. Avant YouTube, si, mais je pense pour toi, c'est 2012-2013, on était direct sur YouTube à fond, à consommer, à produire déjà.
Déjà plusieurs heures par jour. Hein.
Déjà produire des vidéos.
Ouais.
Mais pas d'Urbex.
Ouais.
Non, bah.
Il a commencé en 2012, lui, les vidéos, je crois. Et moi, en 2014.
Du coup.
Dans le genre.
D'accord, et on faisait du jeu vidéo sur téléphone.
Ah oui, d'accord.
Rien à voir.
Encore quelques questions du chat et puis on va se séparer de vous alors qu'on passe un excellent moment, mais c'est le principe, hein, oui, il faut que ça s'arrête.
On se retrouve la prochaine fois.
Oui, bien sûr.
Alors moi j'ai une petite question, est-ce que vous allez vous projeter de visiter des endroits hantés?
Alors le truc là-dessus, c'est que nous on est très rationnels, du coup on n'y croit pas forcément.
Ouais.
Il y a plein d'endroits qu'on a déjà visités qui aux yeux de certains sont hantés. Sauf que nous on y est allé, on a juste fait notre vidéo, c'est abandonné,
et pas
y avait rien d'étrange. Alors que pour certains c'est oh il y a une claque, une porte qui a claqué.
Ouais, enfin c'est ça, la notion de hanté c'est un peu bizarre parce que nous quand on explore des lieux on fait pas forcément gaffe à si il y a tel bruit qui va se faire ou si telle onde électromagnétique va se manifester ou je sais pas quoi.
Alors comment se sont passées vos explorations aux États-Unis?
Très bien.
Ah oui, parce que là vous revenez des États-Unis en fait.
Exactement.
On est revenu
début de semaine.
D'accord.
Et on avait quelques a priori sur la police là-bas, de peut-être des arrestations un peu musclées, mais au final, on les a jamais croisés en exploration. Tout s'est bien passé.
Après, vous êtes blanc.
C'est ce qu'on s'est dit. En vrai, c'est un peu border, mais c'est ce qu'on s'est dit. Mais bon, on a eu beaucoup de chance. On a croisé personne et tout est ouvert beaucoup plus qu'en France. C'est fou.
Et là, le boulot, c'est vous allez mettre tout ça en image et au fur et à mesure, ça va sortir sur votre.
Exactement. Bah, ce matin, on était en train de tourner les débriefs et pour préparer ça.
Moi, ce qui me fascine dans l'urbex très rapidement, c'est que ça donne l'impression en fait que tout ce que fait l'homme, finalement, c'est très fragile. C'est-à-dire que dès qu'on s'en va en fait d'un endroit pendant 15 jours, la nature commence à reprendre quasiment ses droits. Et je trouve que ça nous ramène à notre petite place. Et je trouve qu'il y a une forme d'humilité là-dedans que j'aime bien. Moi, le site de Mirapolis, par exemple, totalement envahi par la forêt avec des chevreuils dedans, je trouve ça plutôt poétique parce qu'à la base, c'était fait pour devenir un Disneyland, quoi.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette
totalement, totalement rien à ajouter.
Eh bien, nous allons nous quitter sur cette philosophie.
Mais non, mais
vous avez tiré vers le haut.
Oh,
et je vais m'abonner dès la fin de cette émission à Gabriel et Corentin. 466 000 pour l'instant abonnés. Et je pense après le passage, là, on va les taper les 500.
Allons au demi-million. Hein.
Ah, on y va. Et puis, si vous voulez des vidéos plus courtes, mais sur quand même les thématiques d'urbex, Corentin et Gabriel sur YouTube. Merci infiniment,
messieurs, c'était très cool.
De nous avoir fait découvrir, en tout cas pour ma part, et conforter Tanguy dans sa passion pour l'urbex. Merci à vous.
France Inter le samedi soir, Pastureau Vizorek, c'est Pastèque.
Pastèque.
Après le disque, c'est la mythique. J'aime bien cet adjectif parce que voilà, c'est honnête.
Il est approprié.
Ouais, c'est la mythique revue de presse. Mais avant tout cela, on va écouter
les Gabrielles avec Blame.
Mornings turn to night, and then the night becomes the day. I can't keep up with time. Keep losing still, keep hoping for that when I knew can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Halls of rolling ice and waterfalls, I can't help but smile. Troubled fortunes lies and shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I say, it don't matter to me. Can't be a slave. If it's where I wanna be, then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down? Mm-hmm.
not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down?
Vous êtes sur France Inter dans Pastèque et abonnez-vous sur Twitch à notre chaîne, comme ça vous pourrez participer aux enregistrements, on va dire ça comme ça, de l'émission et intervenir, être une pastèque. Et oui, mais c'est un objectif de vie. Oui. Hein. Et donc vous pourrez commenter notre revue de presse et là Tanguy, vous attaquez, mais c'est Gala.
Dans Gala, un article sur Benjamin Griveaux, vous savez,
oui, oui.
Il y avait eu l'affaire où
Sais trop bien.
Voilà, il avait envoyé une photo de son sexe à une personne qui après l'avait dévoilée alors que normalement ça faisait partie de l'intimité. C'est des, vous voyez, c'est la modernité.
C'est pas beau de la part de cette femme d'avoir fait ça.
Non. Mais il faut se méfier. Il faut pas envoyer des photos de son sexe à n'importe qui non plus.
Ça, c'est pas faux.
Alors là, on voit Benjamin Griveaux avec Julia, sa femme, hein,
Madame l'avocate.
Voilà, qui lui a bien sûr tout pardonné. Ils ont tenu bon, donc tout va bien. Et il y a un observateur de la vie politique quand même qui se sont demandé si à un moment Benjamin Griveaux n'allait pas se suicider.
Non.
Si, parce qu'il
pas ça, Benjamin.
Il dit certains d'entre nous se sont demandé s'il n'allait pas commettre l'irréparable. Non. Alors l'irréparable, est-ce que c'est pas juste envoyer une photo de ses fesses
Présenter à la mairie de Paris.
Ou se présenter à la. C'est vrai qu'il l'avait fait.
Oui.
Et oui, c'était en pleine campagne.
Et heureusement que.
Mais ça paraît tellement loin tout ça, parce qu'avec le Covid, vous rendez compte qu'Agnès Buzyn à l'époque était candidate également.
Mais c'est pour ça qu'elle a quitté le ministère.
Ah ben non.
Tout ça à cause de notre ami Griveaux.
Voilà. C'est ce qu'on nous dit aussi dans le chat. Griveaux, c'est l'un des seuls gars qui a aimé le Covid grâce auquel il est reparti dans l'anonymat.
Exactement.
Et ça n'a pas dû être facile, parce que le Covid est arrivé peu de temps après.
Ouais.
Donc il est resté avec maman pendant 3 mois enfermé.
Ouais,
et à mon avis, il a beaucoup fait la vaisselle. Si je peux me permettre.
Peut-être avait-il un lave-vaisselle.
Peut-être il mettait les couteaux. Mais même avec un lave-vaisselle, elle lui aura dit non, t'es, écoutez quoi, tu vas.
À mon avis. Alors je ne sais pas s'il met les couteaux vers le bas, mais je sais que voilà.
Alors
je sais ce qu'il met vers le haut.
Moi j'ai lu Le Point et que trouve-t-on cette question qui, je sais, vous taraude un petit peu. Vous me demandiez toujours, mais qui est Monsieur Pécresse?
Oui.
Son mari. Son mari. Eh bien, il est là. Jérôme Pécresse. il la regarde. Une photo, il la regarde à la télé avec le chien.
Ah ouais. Et où? Dans son salon?
Ah, dans son salon. Il est supporter. Alors, il est pour, il est pour qu'elle gagne, vraisemblablement, ce que tant mieux. Mais avec ces questions, déjà, comment est-ce qu'on va devoir l'appeler? First gentleman à l'américaine, Monsieur le Président bis, ça c'est compliqué, prince consort, comme on se moque un cadre LR, parce que ça pour se moquer il y a du monde,
mais beaucoup de sexisme
pour être Monsieur Pécresse il y a moins de monde déjà peut-être.
Ouais,
Et lui propose le mari de la présidente, donc lui il s'y voit déjà tranquille à commander les nouvelles assiettes. Il se dit féministe parce qu'il partage la charge mentale du ménage. Ça, c'est beau. Donc, de temps en temps, c'est lui qui fait la vaisselle. De temps en temps, c'est lui qui met les couteaux dans le bon sens. Il a des opinions politiques. Bon, ça, je ne sais pas si c'est intéressant. De centre-gauche. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu ce qui lui manquait de pouvoir aller récupérer sur la Macronie. Donc, elle a envoyé son mari. Amateur de tournois de bridge.
Ça indique le statut social.
Oui, c'est vrai qu'il y a peu
très
de bridge.
Très peu de fans de Philippe Poutou dans font
de
bridge.
dans le 9-3, très peu de concours de bridge.
Alors, moi, j'ai lu Valeurs actuelles.
Oui, ça vous aimez.
Avec en titre Islam, la lame de fond.
Et alors, c'est longtemps peut-être qu'ils n'avaient plus parlé de l'islam, non?
Mais oui, mais il faut de temps en temps. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont trouvé le moyen pour qu'il y ait le moins de musulmans en France.
Ah.
Et bien, c'est de les convertir au catholicisme. Alors, c'était la solution. Personne n'y avait
pensé. C'est pas bête.
Personne n'y avait pensé.
C'est concept. Ça a été fait en d'autres temps, quand même.
Peu forcé. Ici, je pense qu'il faudrait leur faire de manière plus socratique.
Attention, ça se faisait avec des épées. Maintenant, ça se fait avec la force de l'argument. Et par exemple, il y a une mission qui s'appelle la mission Ismerie. Dans cette mission, on parle d'évangélisation. Donc, on est effectivement sur un terme qu'on rencontrait un peu pendant les croisades, sauf que là, effectivement, il s'agit de convaincre les gens. Et ils prennent comme exemple, ce comédien, Mehdi Djahadi, qui est un musulman converti au catholicisme et qui devient, donc, il a rencontré le pape François au Vatican en 2019. Et pour Valeurs Actuelles et tous les médias de ce bord politique, ce monsieur est en train de devenir une véritable icône.
Et oui.
Voilà, il est en train d'être érigé en icône.
Est-ce qu'il a choisi vraiment de vouloir être cette
icône-là? Alors ça, je ne sais pas. Par contre, on ne le voit pas trop dans les médias, il n'est pas trop interviewé, mais en tout cas, c'était la solution pour qu'il y ait moins de musulmans, c'est qu'ils deviennent catholiques, et je trouve qu'on n'y avait pas pensé avant. C'était en fait tout bête, quoi. Tout bête.
Devrait-on dire merci Valeurs Actuelles?
Clac, clac, hop, allô.
Peut-être pas.
Allô le pape François, je voudrais me convertir, s'il vous plaît, parce que c'est assez simple.
Alors, il y a eu un article dans le Parisien.
Ah, le Parisien.
Qui était. Je ne vais pas te parler de tout l'article parce que c'est sur Jean-Jacques Bourdin.
Oui. Le monsieur aussi.
Voilà, le début de la fin, point d'interrogation, titre Le Parisien, c'était dimanche dernier. Il y a juste un truc qui m'a amusé toutefois. Parce que voilà, l'article est plutôt à charge. Et je ne vais pas ajouter moi-même mon analyse des faits parce qu'elle n'en aura aucun intérêt.
Non.
Mais il y a un truc quand même assez amusant parce qu'on avait appris que Nicolas Hulot et PPDA comptaient les points.
Oui.
Eh bien.
À chaque femme, il ouais. Y avait un point.
Voilà. Et bien. Plus rigolo, parce qu'il était journaliste sportif avant Jean-Jacques Bourdin. Ah. Et c'est Dominique Grimaud, camarade. Et en même temps, quand on a des camarades comme ça qui racontent les belles anecdotes d'avant, on n'a pas besoin beaucoup d'ennemis. Hein. Donc, oui, il explique que toutes les filles fondaient devant Jean-Jacques dans les années 70, quand il était sur le tour. Avant MeToo, les filles étaient consentantes. Ça, c'est une analyse de Dominique. Je lui laisse totalement la paternité.
C'était OK.
Mais surtout, il explique que le mois de juillet, c'était le mois du Tour de France, et Bourdin oui. s'était lancé dans un concours de séduction sur les routes du Tour de France, baptisé le slip jaune, en référence au maillot jaune. C'est pas bien. C'est,
non, Lulu, c'est Lulu pas bien. Effondré.
Je le dis pour dire que c'est pas bien.
Oui.
Parce que c'est
oui.
encore plus étrange que vous pourriez l'imaginer, consternant même. Entre Bourdin et ses collègues, c'était à celui qui choperait le plus de nanas possible sur le Tour, et il y avait aussi le slip vert. De celui qui concluait le plus vite, parce que c'est le maillot de meilleur sprinter. Et on se dit, mais pourquoi n'ont-ils pas fait le slip à poids? Parce que là, c'est le meilleur grimpeur et ça avait un peu de sens.
Alors j'ai Paris Match. Alors Paris Match a suivi Bruno Le Maire.
Oh là là.
Bruno Le Maire. Alors malheureusement sa vie est devenue morne, très très
à
triste.
À quel moment elle a été punk?
Oui, mais là vraiment on est sur une fin de cycle puisque on voit Bruno Le Maire, donc ils l'ont suivi comme ça. Il était où est-ce qu'il était parti? Il était parti près de Dieppe en Normandie. Donc il s'arrête à une station-service sur la route de Dieppe avec son conseiller entreprise.
Il mange des pépitos.
Alors on le voit. Non, pas du tout. C'est une alors dit-il, son carburant à lui, c'est café et chocolatine.
Ah, oh là là.
Alors, chocolatine, le problème, c'est que sans le savoir, ouais. Bruno Le Maire a divisé la France. Parce que dire chocolatine, déjà à Dieppe,
c'est. Je crois que c'est une hérésie, oui, bien sûr.
Et puis, bien sûr, on dit pain au chocolat.
Alors,
regardez la tête de Bruno Le Maire, ouais, mais il a l'air fatigué.
Il
est usé, on est sur une fin de quinquennat.
À mon avis, il ne verra pas l'élection.
Il n'en peut plus. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'on raconte un petit peu sa vie quotidienne quand il est à Paris. Alors, on l'imagine dînant avec les patrons, les grands patrons du CAC 40, etc. Je veux dire, son truc, c'est quand même l'économie. Et bien, pas du tout. Il laisse tout ça à Alexis Kohler. Et lui ne dîne, nous dit Paris Match, qu'avec des écrivains. C'est-à-dire il a eu le Nobel de littérature la semaine dernière, Peter Hanke et son épouse Sophie au restaurant. Ensuite, elle a eu Marie Dariussec et son époux astrophysicien. Il dîne très souvent avec Michel Houellebecq. Il est entouré d'écrivains. Et d'ailleurs, lui-même écrit.
Eh oui,
mais c'est assez surprenant, vous voyez, pour un ministre de l'économie. Généralement, ce sont des gens qui ne sont pas très portés sur les lettres, on va dire.
Voilà, est-ce qu'on va nous le filer à la culture?
Ah ben voilà, c'est ce que j'étais en train de penser. Je me dis que ça ferait un bon ministre de la Culture. En tout cas, il lit. Donc, voilà. Mais ils n'ont pas tous lu. Hein. On en a eu, on sentait que le niveau n'était pas non plus dingue.
C'est
hein.
pas faux. C'est pas
voilà.
Et
voilà.
On ne donnera pas de nom.
Non,
de
pas
Franck
du tout.
Liester. Quelque chose du lu sur le chat. Comment vont-ils déjà?
Ils vont très bien. Ils sont en train de discuter, donc pas au chocolat ou chocolatine.
Oh là
forcément.
Là, ça c'est possible que donc, le chat explose. Oui.
On ne dit pas chloroquine. Mais Clorox au chocolat.
Ah oui.
Ça, c'est pas mal.
Ça, c'est pas mal.
Mais moi, je suis team croissant, donc...
Donc, du coup, ça solutionne le problème sans vraiment le régler.
Voilà.
Alors, moi, je vais terminer par psychologie positive.
Ah, j'adore.
C'est celui de janvier-février. Et psychologie positive nous dit le secret pour être positif.
Ah oui,
parce
quand même.
C'est ça que vous me disiez, je suis un peu négatif.
Ouais.
Comment
ouais.
s'annonce 2022? Bon, alors. Il faut du changement. Et il y a 24 suggestions. De ce qu'il faudrait changer pour aller mieux. Alors, je vous en ai gardé 8, prenez des notes. Cherchez la beauté autour de vous. Et ça, c'est vrai que, par exemple, à France Inter, c'est pas évident. C'est déjà un travail d'archéologie. Mais quand
la beauté à France Inter, voilà, urbex ou pas?
Voilà. admirer le reflet d'un arbre sur le capot d'une voiture. Trouver de l'attrait dans chaque visage. Et ça, c'est vrai qu'avec le masque, ça devient plus compliqué.
Ouais.
Non, les yeux, encore une fois.
Les yeux, c'est vrai. Yeux. Deux, manger les yeux bandés. Ça, c'est vraiment... Ah oui, non. Mais ça demande un peu d'investissement, la psychologie est positive.
Oh mon Dieu.
Oui, parce que lorsqu'on ne se voit pas, le goût et le parfum sont exacerbés.
Il y avait ce restaurant dans le noir à un moment à Paris.
Exactement.
Très chouette.
En numéro 3, complimenter les 5 premières personnes que vous rencontrez. Et ça, c'est un bel exercice.
Oh, oui, ça, ouais.
Oui, oui. Par exemple, voilà, Tanguy, je suis tellement content de vous voir aujourd'hui.
Moi aussi, mon loup.
Vous êtes rayonnant. Hugo, quel beau pins.
Lulu.
Allez, vous avez compris le principe. Lulu.
C'est horrible.
Conseil 4. Soyez parfaitement honnête toute la journée. Et ça, y a pour qui c'est pas évident non plus. Douchez-vous sans lumière à la nuit tombée. Alors ça, va savoir pourquoi.
En fait, il faut tout faire sans voir.
Ouais,
oui, c'est ça.
Alors ça, pour moi, le plus angoissant, qui moi me mettrait pas du tout de bonne humeur, échangez votre maison avec celle des voisins. Ça demande de l'investissement.
Bah non.
Parce que quand on ne connaît pas son intérieur, il y a du changement, ça booste le moral.
Et puis pour ceux qui habitent en immeuble, il faut savoir que souvent les deux premiers étages sont des logements sociaux. Donc si vous habitez au troisième, vous êtes lésé.
Essayez de viser l'étage supérieur, bien sûr. Bonne technique. Aménagez vos armoires différemment ou mettez la poubelle à une autre place. Pour casser la routine du cerveau.
Ça, c'est vrai.
Voilà, bon, ça.
Il paraît qu'il faut changer de place dans le lit aussi.
Il faut changer de personne.
Non, de place. Pas être systématiquement au même endroit dans le lit.
D'accord.
Pour casser la routine.
Ah.
Il ne faut pas manger à table, à la même place, des tas de trucs comme ça qui cassent la routine.
Vous êtes fort, vous.
Oui, j'ai vu ça.
Et alors, lisez un autre journal que celui que vous lisez en temps normal. Et ça, c'est ce qu'on fait dans
Pastèque. Oui, ça, c'est vrai.
Mais alors, c'est très idiot de dire ça dans un journal.
Oui, mais comme ils sortent.
Se précipiter sur un autre
journal. Ils sortent tous les deux mois, psychologie positive, vous avez le temps de vous en remettre.
Ils prennent un risque quand même.
Bien. Voilà, donc changez d'émission maintenant pour avoir du changement. Et comme ça, vous reviendrez nous voir avec beaucoup plus de bonheur et beaucoup plus de positivité la semaine prochaine. Le chat, il est à quelle heure, Lulu?
Alors, la semaine prochaine, ça sera vendredi, de 13h à 15h, donc vendredi 11.
Voilà. On va remercier tous les gens qui nous permettent de faire cette émission. Hugo Combes, qui prépare ça très bien. Théo Raison, à la réalisation. Merci à la technique, Guillaume Roux et Raphaël Rousseau, à la programmation musicale. Thierry Dupin, merci à vous, Lulu.
Mais merci à toi.
Oh, mais non, il y a une bonne ambiance dans Pastèque. Merci à vous, Tanguy Pastureau.
Très convivial. Merci, Alex.
À part entre nous. Merci à la semaine prochaine. 13h sur la chaîne Twitch. Et puis, bien sûr, sur France Inter à 19h. Salut les Pastèques.